With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et voici le dernier épisode, entre guillemets, normal du rendez-vous jeu de l'année. On va vous parler des jeux auxquels on a joué, les toutes dernières nouveautés évidemment, rien que des trucs super super récents, et aussi un petit lot de news. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, je suis Patrick Béja, nous sommes encore en 2021 et c'est l'épisode numéro 219, faut pas exagérer quand même. On a un épisode un petit peu plus court a priori parce que l'actu est un petit peu plus calme, on est vraiment en fin d'année. Avant même de faire quoi que ce soit d'autre, je vous informe que c'est donc le dernier épisode normal de l'année, mais ça ne veut pas dire que c'est le dernier épisode de l'année, parce qu'on a préparé des petites choses pour vous. On a un épisode bonus sponsor qui arrive dans quelques jours. Bon, ça, c'est un truc un petit peu à part, mais on s'est bien marré, on l'a fait avec Trinity, c'était bien rigolo. Et on a surtout notre épisode GOTY, nos jeux de l'année, qu'on a déjà enregistré avec tous les co-animateurs réguliers, et donc encore Trinity, qui est hyper sympathique, qui arrive la semaine prochaine. Donc celui-là, ça sera le vrai dernier épisode de l'année. Mais après ça, on aura peut-être encore un petit peu, un petit truc en début 2022, un petit truc pour ce qu'on pense qui va arriver, enfin nos attentes, nos espoirs peut-être, pour 2022. Et devinez qui sera là aussi, bah, Trinity. C'est un petit peu le mois de Trinity, le Trinity Month. Donc, je suis très heureux que Trinity soit là aussi avec moi aujourd'hui dans cet épisode.
Mais elle est partout, c'est pas possible.
Pour notre plus grand plaisir, évidemment. Merci.
Je suis très contente d'être avec toi. Ça a été un plaisir cette année.
Oui, partagé, complètement partagé. Et merci à toi de nous rejoindre, même si tu es en fait en vacances normalement, tu es chez ta maman et tout. Donc merci de prendre du temps pour nous.
Avec plaisir. Alors si vous entendez le bois craquer, c'est normal. Je suis sur une chaise en bois, sur un parquet. Je suis dans une ambiance différente de d'habitude, très cosy.
C'est bien, ça te rapproche un petit peu de l'ambiance dans laquelle je suis tous les jours. Vieille maison, voilà. Parquet qui craque, tout ça.
Et exactement.
On n'est pas juste tous les deux, on a aussi un invité de marque et de prestige et de talent, c'est Yannick Le Fur, alias Logan. Comment ça va, Logan? Je sais que tu as changé complètement de monde depuis que tu as quitté la rédaction de JV. Comment tu te sens?
Bah, écoute, ça va. Alors bonjour, merci pour l'invitation, Patrick. Écoute, changer de monde, pas vraiment, parce que je reste dans le jeu vidéo. Puisqu'effectivement je suis passé de jeuxvideo.com à Microids. Par contre, nouveau poste, effectivement, puisque là j'officie plutôt dans le milieu du marketing, on va dire, parce que je suis chef produit. Mais c'est super intéressant en fait de voir l'autre côté de la barrière. Donc pour l'instant ça se passe très très bien. Je travaille avec une super équipe, je travaille sur des projets qui sont super intéressants. Et je tiens à dire que, de mon côté, si vous entendez des craquements, alors c'est pas le parquet, c'est juste mes articulations, parce que je suis un vieux monsieur. Donc voilà, je tenais à le dire, n'ayez pas peur.
Très bien, très bien. Tu sais, je suis même pas sûr que tu sois... D'entre nous deux, on va pas, même pas se demander, mais je suis pas
non,
sûr.
Non, on va pas se demander.
Non. mais du coup, écoute, tu passeras la prochaine fois que tu es au bureau, tu passeras, je sais pas si vous allez au bureau en ce moment, mais tu passeras mon bonjour aux autres anciens journalistes qui sont passés dans le rendez-vous jeu. Tu leur passeras mon bonjour parce que Microïd recrute visiblement à tour de bras chez les gens qui connaissent les jeux vidéo. Donc, très, très sympa de t'avoir à nouveau dans l'émission. On va parler peut-être en première partie, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, parce qu'il n'y a pas de grosses news, des jeux auxquels on joue en ce moment. Et comme j'en plaisantais tout à l'heure, on ne parle que des toutes dernières nouveautés. Toi, Yannick, tu as pris le temps de finir Kena, qui est sorti il y a quelques mois quand même. Donc, c'était pour la blague, on va voir que ça va aller un peu plus loin tout à l'heure. Tu as pris le temps de finir Kena Bridge of Spirits. Qu'est-ce que tu en as pensé, dis-moi?
Ouais, tout à fait. C'est vrai que je joue un petit peu moins en ce moment à cause de mon travail notamment. Mais ça, ce jeu-là, en fait, je l'avais suivi déjà en fait depuis son annonce. Ne serait-ce que parce que visuellement parlant, il était vraiment très très attirant. Et ben en le finissant, ça a confirmé déjà en fait ce que je pensais de lui à travers les trailers, c'est-à-dire en fait que visuellement, il est vraiment vraiment somptueux. Donc je l'ai fait sur PS5. Puisque j'ai la chance d'avoir une PS5. Visuellement, c'est vraiment très très joli. C'est très classique dans la proposition. Ça reste un jeu d'action avec des éléments de plateforme. Il y a un petit côté aussi, c'est très très joli, comme je disais, c'est très rond. Il y a pas mal de cinématiques qui font vraiment penser à certains moments vraiment à du film d'animation. On pense, j'allais dire Pixar, plutôt du Disney, mais il y a une vraie recherche, je trouve, aussi dans la narration, tout du moins dans les cinématiques. Alors, encore une fois, ça reste assez classique, mais c'est un mélange, moi, qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. C'est très, très feel good, si je puis dire. Même si c'est ce que j'ai trouvé assez intéressant, enfin très intéressant, c'est que de l'extérieur, quand on regarde le jeu, on peut se dire en fait qu'il s'adresse à un public assez jeune finalement, notamment grâce à ce visuel très très coloré, très très rond, etc. Mais finalement, quand on y joue, tout du moins quand on y joue en normal, il y a quatre modes de difficulté, donc en normal, ça se fait, il y a pas trop trop de frustration. Mais il y a quand même un vrai challenge dans le combat de boss.
Ouais.
Alors, on a entendu, on a pu lire ici et là, effectivement, il y avait une petite influence From Software, Dark Souls.
Bah maintenant, dès qu'il y a des boss difficiles, c'est un peu ça. Mais
mais
c'est pas faux, hein, il y a un peu de
oui.
ça avec les mouvements, les animations qui prennent un peu de temps, les patterns à apprendre. Il y a un peu de ça, c'est sûr.
Oui, tout à fait. Alors bon, après, je ne sais pas si c'est. Alors, je sais que, comme je vous disais, moi je l'ai fait en normal. Je sais qu'il y a deux autres niveaux de difficulté supplémentaires. Bon, je pense que je ne vais pas les essayer parce que
Ouais.
déjà en normal, c'est peut-être moi hein, qui a pas assez de skill. Mais sur
On est dans le même
certains.
cas, hein. Je te confirme, il y en a qui sont bien frustrants, qu'on doit recommencer un bon nombre de fois. Il faut vraiment apprendre les combats. Je
Ouais,
pense que
mais
ce n'est pas
c'est.
usurpé cette réputation. C'est pas impossible, tu peux le faire,
Exactement.
mais. Il faut, c'est comme tu le dis très bien, c'est pas ce qu'on aurait pu attendre du jeu quand on l'imagine au premier abord, quand on voit les visuels. Tout à fait raison.
Ouais, tout à fait. Et encore une fois, je trouve qu'il y a, j'allais dire, une vraie science du boss. Je sais pas si je peux dire ça, mais je trouve que il y a une, c'est très très bien équilibré. C'est très très bien équilibré parce que, comme tu dis, effectivement, en dehors des boss, hein, le jeu est quand même relativement simple. J'ai jamais eu de vrais problèmes. Mais par contre, sur certains boss, alors oui, je suis mort, je sais pas, 10, 15 fois sur certains, mais il n'y avait jamais vraiment de frustration parce que dès le départ, les patterns sont quand même relativement simples à analyser, à comprendre. Et après, en fait, il faut un tout petit peu de skill. Mais à aucun moment, je me suis dit, OK, je ne vais pas y arriver. Je savais qu'effectivement, en m'acharnant un tout petit peu, j'y arriverais. Et effectivement, voilà, donc ça passait toujours au bout de, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure pour les vraiment, vraiment les plus difficiles. Et tout ça fait que j'ai pris énormément de plaisir à y jouer. Ça fait très très longtemps que j'avais pas ressenti cette envie de revenir chez moi pour relancer en fait un jeu
Ouais.
parce que j'avais envie de voir, tu vois, en fait, ce qui allait se passer par la suite. Donc encore une fois, c'est classique, mais c'est très joli. Il y a quasiment aucun bug. C'est simple, c'est mignon parce qu'en fait, vous avez aussi des petits ce qu'ils appellent des rots. Ce sont des toutes petites créatures que vous pouvez récupérer. Il y a un gros aspect aussi collectibles à récupérer. Et donc, vous pouvez customiser en fait, ces petits rots en trouvant des petits chapeaux, etc. Donc, bref, c'est des petits détails, bien sûr, mais ça participe encore une fois à l'ambiance très, très feel good du jeu. Et encore une fois, ouais, je pense que j'ai dû mettre, je sais pas, je pense une quinzaine d'heures peut-être pour le terminer, quelque chose comme
Quelque
ça.
chose comme ça, ouais.
Voilà. Et du début à la fin, vraiment, ça a été un véritable enchantement pour moi.
Je suis assez d'accord. Et ce qui est notable, je trouve, c'est que c'est un truc qu'on ne voit pas généralement dans les jeux. C'est un jeu qui n'a rien de vraiment innovant ou surprenant, mmh. ou même, j'irais jusqu'à dire, au-delà de, des graphismes et de l'animation qui sont vraiment un niveau au-dessus, il n'y a même rien qui soit notable, qui mmh. le mette en, en... Comment dire? Qui nous fasse dire « Ah ouais, celui-là, il était unique pour telle ou telle raison. » Mais c'est un exemple parfait d'un jeu qui est, on dit en anglais, « more than the sum of its parts », qu'il est plus... que la somme de ces éléments constitutifs. Au final, le résultat est... est la sauce prend tellement que c'est meilleur que l'addition de ce qu'il compose. Et du coup, moi, j'en garde un très, très bon souvenir. D'ailleurs, peut-être qu'on en reparlera un moment avant la fin de l'année. Ce n'est pas impossible. Restez abonnés à l'émission pour le savoir. Super. Donc, Kena Bridge of Spirits, très bien. Et toi, est-ce que tu as joué à des jeux, Priscilla, extrêmement récents, les trucs qui viennent de sortir, les tout derniers ?
Ah, bien sûr, j'ai joué à des sorties extrêmement récentes. Alors, le premier, ça reste assez récent, mais j'ai fait un jeu d'horreur indépendant, comme c'est surprenant, qui s'appelle Locked Up, qui est un jeu sorti en 2020, que j'ai découvert là il y a quelques semaines, même pas deux semaines, parce que comme tout le monde, c'est un petit peu compliqué en cette fin d'année, il n'y a pas beaucoup de jeux. Et en plus, j'étais en déménagement, donc j'ai décidé d'aller droit au but et de me faire peur. Locked Up, c'est un thriller psychologique en fait à la première personne où l'objectif du jeu ça va être d'explorer un environnement mais en espace clos. Donc il y a vraiment une espèce de, pour que ça parle aux gens, une espèce de vibes Silent Hill Pity, la démo du jeu Morné, où on est un peu dans un espace clos avec une histoire un petit peu déstructurée dans la temporalité. En fait, ça va vraiment se passer à plusieurs époques pendant tout le jeu. C'est un très très bon jeu indépendant qui se fait assez rapidement, qui est plus thriller que horreur, bien qu'il y ait quand même quelques petits jumpscares qui fassent peur. Donc très prenant. Et ça se finit en 3 heures, 4 heures, si vous êtes un peu lent comme moi parce que vous flippez. Donc, si vous aimez les jeux d'horreur, comme d'habitude, je vous le conseille. Et alors là, j'ai attaqué un autre jeu encore plus récent. Là, on tape sur du 2014, puisque je suis retournée faire The Evil Within. Je pense que tous les fans d'horreur connaissent ce jeu. Il est sorti effectivement en 2014. Il y a même une suite, The Evil Within 2. Mais le premier, pour moi, reste vraiment le meilleur. Alors là, par contre, on rentre vraiment dans le gore. Hein, un peu gore, psychologique, horreur, avec des mobs juste hyper flippants. Faut savoir que c'est un survival qui a été créé par le fondateur de la saga Resident Evil. Hein. Donc on ressent vraiment quand même les vibes de ce style de jeu. Et honnêtement, j'avais un petit peu peur en retournant sur le jeu. Parce que tu sais, quand tu as autant d'années qui sont passées, tu as des souvenirs merveilleux du jeu. Mais parfois, les mécaniques de gameplay prennent un petit peu un coup. Et très honnêtement, j'ai trouvé ça toujours aussi bon. Le jeu est toujours aussi bon. Voilà, c'est de la troisième personne. Et honnêtement, l'ambiance est géniale. Le gameplay est très cool. Je ne l'ai pas encore fini, mais je compte bien le terminer pour la nouvelle année. Voilà.
Super. Et tu ne l'avais pas fait du tout, Evil Within ?
Si. En fait, je l'avais fait à sa sortie. Ça fait partie de mes débuts. De streameuse, moi j'ai attaqué vers 2013 et Evil Within, ça fait partie des premiers jeux d'horreur que j'ai fait en fait en live. Et je l'avais trouvé excellent. Je pense que j'avais percé 2-3 tympans à l'époque, hein, parce qu'il est vraiment extrêmement flippant. Faut être bien accroché quand même. Tous ceux qui ont joué au jeu se rappelleront de la fameuse femme araignée. Je n'en dis pas plus si vous n'avez pas fait le jeu. N'hésitez pas à aller voir. C'est quand même un grand classique. Faut dire que j'en avais déjà discuté dans l'émission, mais dans le jeu d'horreur, on n'a pas énormément de blockbusters. On en a. Les Resident Evil, les Silent Hill, etc. Mais c'est pas des sorties hyper régulières, quoi, au niveau du jeu d'horreur. Et The Evil Within, ça fait vraiment partie de ces blockbusters AAA excellents en jeu d'horreur. Donc, c'est toujours un plaisir de les refaire.
Très bien. Bah, écoute, j'espère que tu as passé de bons moments et que tu te souvenais pas du jeu, parce que sinon, c'est pas, tu triches si tu te souviens du moment des jumpscares et tout ça.
Non, c'est bien le problème, je ne me souvenais de rien. C'est bien ça le problème. Et j'ai attaqué, et j'étais dans le tuto, que j'étais déjà en flip. Je me faisais poursuivre par un mec avec une tronçonneuse, et j'étais là, mais les gars, mais ça commence comme ça. Mais c'est pas possible, je vais pas tenir tout le jeu. Pourquoi je suis retournée dessus? Mais je vais quand même le continuer, comme d'habitude, j'adore me faire peur.
Très bien, très bien. J'ai oublié de remercier les Patriotes, mais quelle honte, Patrick.
Oh là là.
Ah, mais il faut remercier Max Denardi, Igor Desserac, Rousel. C'est comme ça que c'est écrit, hein. José Fraga et bien sûr les producteurs Claude Girel, Stéphane Grégory Sata et Steph Sinalco. Merci à vous tous de soutenir l'émission et merci d'avoir été présents pendant cette année en 2021. J'espère que vous serez là aussi en 2022, hein, mais merci beaucoup à tous ceux qui soutiennent l'émission. Vous savez que vous êtes tous et toutes dans mon cœur et que c'est grâce à vous qu'on peut faire cette émission. Donc, c'est quelque chose de très particulier, surtout en cette période un petit peu difficile qui commence à s'allonger maintenant. Donc, j'apprécie beaucoup le fait que je puisse faire ce que je fais sans trop de difficultés, justement. Grâce à vous. Et pour faire honneur à ce soutien et cette qualité intrinsèque, moi aussi, je vais vous parler de jeux super récents auxquels je joue tout le temps. Je ne vais même pas parler d'un jeu, je vais parler d'un service. Ça y est, tout le monde va se désabonner. Non, j'ai testé en fait le GeForce Now RTX 3080. Et je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir des retours là-dessus. Et vous savez, c'est le nouveau service de streaming de NVIDIA qui est assez similaire au GeForce Now qu'on connaît depuis longtemps, mais qui est encore plus performant. Il permet de streamer en qualité supérieure dans les jeux, c'est-à-dire qu'il y a plus de ray tracing, plus de machin, plus de bidule. Il y a aussi résolution plus élevée, fréquence d'affichage plus élevée, etc. Et selon leurs promesses, même une latence qui est améliorée, ce qui dans le streaming de jeux vidéo, c'est évidemment quelque chose d'important. Et si vous ne connaissez pas spécifiquement le GeForce Now, c'est un service de streaming un peu particulier parce qu'il vous donne accès aux jeux, à votre librairie de jeux que vous possédez déjà sur Steam, Epic Game Store et il y a quoi d'autre ? Il y a un ou deux autres services auxquels on peut se connecter, mais évidemment l'essentiel c'est Steam. Et oui, je crois. Non, je ne sais plus. Je crois que c'est qu'il y en a un autre, mais peu importe. Et en fait, je suis. C'est vraiment les deux visages, une ambivalence extrême par rapport au service, parce que techniquement, il est incroyable. J'allais dire irréprochable, mais encore plus que ça, il est incroyable. Et je vais détailler. Mais au niveau de l'ergonomie, c'est pour moi, c'est rédhibitoire. Et peut-être que pour d'autres, ce n'est pas le cas. À vrai dire, il y a plein de gens qui l'utilisent et qui en sont très contents. Mais pour moi, c'est rédhibitoire parce que, comme j'en parlais de temps en temps dans l'émission, et comme c'était le cas depuis la bêta, à chaque fois qu'on se connecte à un jeu, il faut, non seulement on passe par une interface qui n'est pas toujours la même ou qui est un petit peu aléatoire en fonction de si on s'est déjà connecté ou pas, ou si on a déjà lancé le jeu, etc. On passe par une sorte d'étape intermédiaire de Steam en big picture. On voit les fenêtres, mais en fait, on n'a pas besoin de cliquer, ça se lance tout seul. Enfin, bref, interface compliquée. Mais en plus de ça, il faut se reloguer à chaque fois qu'on lance, non pas un nouveau jeu, mais à chaque fois qu'on relance le même jeu. Et en plus de ça, il ne garde pas les settings. Peut-être qu'il y a une option, j'ai cru voir ça quelque part, où il peut garder les settings, où il autorise de modifier les settings, mais je crois qu'il ne peut pas les sauvegarder. Genre, à la limite, pour les settings graphiques, je veux bien accepter que NVIDIA sait ce qu'il faut mettre pour que ça soit le plus efficace sur leur système, ok ? Un petit peu comme une console, mais par exemple, je ne peux pas changer la langue dans le jeu. À chaque fois que je relance le jeu, il prend la langue de mon système, donc le français, sauf que moi, j'aime bien jouer au jeu en anglais. Et il faut que je rechange les paramètres à chaque fois. Je me demande même si c'est le cas, si ça ne serait pas le cas pour le clavier, le mapping du clavier. Je n'ai pas testé spécifiquement, mais ça ne m'étonnerait pas. Mais surtout, il faut à chaque fois que je relance un jeu, me reconnecter avec mon compte Steam dans le jeu. C'est-à-dire que j'ai connecté mon compte Steam à GeForce Now, ça c'est une chose, mais il faut aussi que je relance, que je me reconnecte à mon compte Steam à chaque fois que je lance le jeu. Et comme bah, j'essaye d'avoir un minimum de sécurité, j'ai une authentification deux facteurs, bah, je dois à chaque fois rentrer le mot de passe, login mot de passe et authentification de facteur à chaque fois que je lance un jeu. Moi, je trouve ça insupportable. En plus des
l'enfer.
C'est vraiment... Dis-moi.
J'avais une question. Non, c'est une early access que tu utilises actuellement?
Non, pas
c'est
du
une
tout.
Version,
Non. J'ai payé pour, j'ai payé pour GeForce Now RTX 3080. C'est la dernière version du service, hyper
D'accord,
performante,
okay.
etc. Et au début, pendant la bêta, je me suis dit, bon, OK, peut-être que ça va être comme ça qu'ils vont le corriger. Le truc s'est lancé. Je me suis dit, OK, ça va pas. C'est pas leur première priorité, mais peut-être qu'ils vont y arriver. Mais c'est toujours pas le cas. Et je comprends pourquoi c'est comme ça, parce qu'ils ont, j'imagine, les fichiers du jeu en commun partout, et donc c'est compliqué peut-être de garder les informations de login, etc. pour chaque utilisateur, peut-être, je ne sais pas, mais le résultat, c'est que l'expérience est vraiment, vraiment frustrante. Moi, et peut-être que... Il y a un moyen de corriger ce problème. Si c'est le cas, je serais très curieux de le savoir parce que au-delà de ça, le service est incroyable. Mais incroyable. Techniquement, c'est une tuerie. Et pourtant, j'ai testé des services dont je disais ils sont de bonne qualité, c'est vraiment bon, que ce soit Stadia ou Shadow. J'ai longtemps utilisé un Shadow en test et c'était déjà très très bon. Xbox est peut-être un petit peu en retrait au niveau de la latence et de la qualité vidéo, de la qualité de l'image, mais le GeForce Now RTX 3080, c'est fou, c'est vraiment, enfin c'est ce que ça dit sur la boîte, c'est peut-être pas un tout petit poil moins puissant qu'une 3080, mais c'est surtout la latence en fait, qui, déjà on est à un niveau graphique qui est vraiment très très bon, qui est comme je vous dis très proche de ce qui, du mieux qui se fait sur PC, mais surtout la latence, je sais pas comment ils ont réussi à se démerder, mais elle est encore meilleure qu'elle ne l'était sur le GeForce Now d'avant, enfin, je ne sais même pas comment ils ont fait pour que ça soit meilleur et sans perte d'autres qualités. Donc, c'est vraiment frustrant parce que le service est techniquement super bon, mais il y a cet aspect des paramètres qui, pour moi, le rend inutilisable. Et comme je le disais, il y a plein de gens qui l'utilisent et qui en sont très contents et que ça ne gêne pas de se loguer de cette manière. Mais bon, voilà, c'est vraiment frustrant, vraiment dommage. J'espère qu'ils réussiront à corriger ça parce que ça en ferait un service j'allais dire le service de streaming de facto. Pas tout à fait, parce qu'il faut que les jeux et les éditeurs et les développeurs signent avec GeForce Now pour que leurs jeux soient disponibles sur le service. Ce qui veut dire que tous les jeux ne sont pas disponibles. Donc ça resterait peut-être pas le service ultime, mais il n'empêche qu'il y en a quand même énormément qui sont disponibles, donc c'est hyper pratique. Pour info, l'abonnement coûte 99€ pour 6 mois. Donc ils ne vous laissent pas vous abonner pour moins de 6 mois. Quand on parle du GeForce Now RTX 3080, il y a une composante gratuite. Vous pouvez jouer carrément à tous ces jeux gratuitement. Il y a des limitations, genre on ne peut pas jouer plus d'une heure à la suite, etc. Ce genre de choses, on n'est pas prioritaire sur les queues. Mais si vous voulez le tester en version non RTX 3080, donc peut-être un peu moins réactif et certainement moins beau, c'est possible, gratuitement. Mais voilà, donc c'est un service qui est compliqué à évaluer quoi, pour toutes ces raisons. Mais j'espère que vous aurez compris de quoi il en retourne.
Non, c'était très clair, mais ouais, effectivement, visiblement, il y a ce petit point-là à améliorer, mais tu vois, tu m'as donné envie d'aller voir quand même, d'aller y faire un petit tour.
Ça vaut le coup, franchement. Et le jour où ils améliorent ça, tout à coup, pour moi, ça change complètement la donne. C'est au point où je me dis, bon, bah, si j'ai pas besoin de me loguer, c'est même plus rapide de charger peut-être sur GeForce Now et j'ai pas besoin d'installer les jeux. Enfin, c'est le même avantage que le streaming du Game Pass. Ça peut... Bon, peut-être quand je suis chez moi, c'est pas super important, mais quand je suis pas chez moi, bah, ça devient un super atout et... bref.
Je vais... En t'écoutant parler, j'étais en train de me demander en fait ce que devenait de son côté Stadia. Je suis moins l'actualité Stadia. Je la
moi
suivais avant en fait pour sourire parce que j'avais besoin de rire en fait dans mon
quotidien,
dans ma vie. Mais là, je me dis tiens, qu'est-ce que ça devient?
Bah écoute, les dernières news en date, c'est qu'ils ont fait ils ont décidé de faire un petit pivot pour faire un truc dont je parlais moi déjà au lancement. Je pensais que le but de Google, c'était pas de devenir principalement éditeur de jeux, mais de fournir le service en marque blanche. Parce qu'il y a très peu de sociétés au monde qui sont capables, qui ont l'infrastructure nécessaire pour offrir ce genre de service. Il y a genre Google, Microsoft, bon, clairement Nvidia, peut-être Facebook, on va dire une ou deux autres. Et du coup, Google peut faire un truc comme ça de manière efficace. Et il n'y a pas beaucoup de concurrence et c'est un service qui a des avantages. Et donc, il semble qu'ils soient en train d'aller dans cette direction plutôt que de soutenir le service Stadia lui-même. Tu te souviens peut-être qu'ils ont annoncé il y a quelque temps qu'ils fermaient leur studio de développement. Et donc là, c'était un peu, mais OK, donc vous allez faire quoi en fait? Ouais. En fait, ça serait peut-être vendre le truc en marque blanche parce que pour des trucs comme des jeux à faire tourner sur Switch ou des jeux à faire tourner sur des devices moins puissants ou même, tu vois, le fait de proposer un jeu par... On avait vu une offre par AT&T aux États-Unis, par exemple. Ils disaient, vous pouvez jouer par notre intermédiaire en vous abonnant à tel service. Vous avez en plus le jeu auquel vous pouvez jouer et c'est disponible sur tous les devices, etc. Ça peut offrir quelque chose d'intéressant. Mais la concurrence commence à arriver aussi, parce que je n'ai peut-être pas parlé d'Amazon, mais Luna est lancée aux États-Unis, en bêta, je crois. Mais ils font un petit peu la même chose. Ils ont des chaînes, comme sur Prime Video, ils ont des chaînes auxquelles tu peux t'abonner, des chaînes entre guillemets, la chaîne Ubisoft ou d'autres chaînes, et donc ils fournissent le service à d'autres éditeurs. Il y a plein d'éditeurs qui pourraient tirer parti d'un service comme ça et qui n'ont pas l'infrastructure pour. On pense à plein de double A, même des triple A, des éditeurs japonais, etc., qui font beaucoup de choses sur Switch. Et Luna, ça serait parfait pour eux. S'ils veulent aller dans cette direction, le service d'abonnement ou ce genre de choses. Donc, voilà.
Oui, clairement.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc, bah écoutez, c'était nos jeux du moment. Il y a quelques news dont j'aimerais vous parler également. Et la première, je suis très, là encore, conflicted. Comment on dit conflicted en français? Je suis confliqué. parce que...
Je suis en conflit
avec moi-même.
Voilà.
En conflit avec moi-même. Je ne sais pas quoi faire parce que c'est Diablo 4 dont j'aimerais vous parler. Et le truc, c'est qu'on a les histoires de... Enfin, les problèmes dont on a parlé à de nombreuses reprises chez Activision Blizzard, les problèmes de harcèlement, etc., qui font que je n'ai pas hyper envie de parler de leur jeu. Mais en même temps, le truc, la dernière update de développeur a l'air cool et en même temps, les développeurs, bah, il y en a plein qui y sont pour rien et qui essayent de faire un bon jeu. Mais si on parle du jeu, bah, on fait de la pub à Activision Blizzard, donc on donne de l'argent à Bobby Kotick. Donc, enfin bref, c'est très compliqué, mais je vais adopter la méthode qu'ont adoptée visiblement la plupart des organes de presse, qui me paraît bonne. C'est que quand on parle d'un de leurs jeux, et bah, on rappelle qu'ils sont embourbés dans une affaire et dans plusieurs affaires de harcèlement sexuel et d'ambiance toxique, de culture toxique dans la boîte, et que c'est toujours pas résolu, et que Bobby Kotick est clairement à l'intention de rester à la tête de la boîte. Et voilà, je sais pas si on peut faire grand-chose de plus que ça. À part carrément boycotter les jeux, mais même ça, je sais pas. Enfin, en même temps, je dis, je sais pas si c'est une solution, mais est-ce que c'est pas pratique pour moi, parce que les autres jeux, j'avais pas forcément envie d'en parler, mais celui-là, j'ai envie, et donc là, je fais l'exception. Bref, très conflicted, comme vous l'avez compris. Mais je vais choisir de le faire comme ça, parce que la dev update qu'ils ont fait, moi, je l'ai trouvé assez incroyable. Il y a tout un tas de choses qu'ils développent dans ces dev updates, et ils en ont eu plusieurs. Hein. D'habitude, j'en parlais pas parce que c'était pas forcément aussi intéressant. Mais là, il y a des détails sur plein d'améliorations dans les combats, les armes, les graphismes. Et ce qui est assez hallucinant, c'est le niveau de détail auquel ils s'attachent. Il y a des choses comme, par exemple, les effets des sorts qu'ils ont modifiés pour qu'ils collent plus près au mouvement. Par exemple, quand on a un sort comme le tourbillon du barbare, avant, la zone de dégâts, c'était une zone circulaire autour du personnage pendant qu'il tournoyait. Et bien là, ils l'ont amélioré pour faire en sorte que la zone de dégâts suive le mouvement de l'arme qui est en train de tourner. Donc, ça fait des dégâts là où vous êtes en train de tourner. Il y a plusieurs exemples de ce type-là. Et les dégâts sont très, très précis. Il y a d'autres exemples comme ça. Sur l'éclairage, par exemple, qui est hyper précis. Il y a la manière dont les capacités évoluent, qui sont de plus en plus puissantes, et la manière dont ça se retranscrit visuellement et... au niveau audio, il y a les armes, il y a les squelettes, la structure du corps des ennemis, c'est-à-dire qu'il y a un squelette, des muscles dessus et la peau par-dessus, de manière à ce que quand ils vont mourir de telle ou telle manière et ça va. Enfin, c'est un niveau de détail qui est tel qu'à la limite, on peut se dire, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire, quoi ? C'est presque trop. C'est assez hallucinant. C'est le dernier devlog update de Diablo. Ils en font un tous les trois mois. Tous les trois mois. Vous pouvez aller sur le site de Diablo, je suis sûr, pour le retrouver. C'est très impressionnant, il y a plein de vidéos. Et je vous avoue que ça m'a donné envie de jouer à Diablo. Et du coup, j'ai envie, mais je ne dois pas, mais je me hais moi-même parce que j'ai envie de jouer à Diablo, tu vois, de cette société horrible qui maltraite ses employés. C'est compliqué, compliqué. Donc,
je comprends, j'imagine.
C'est un peu dans le même état parce qu'effectivement, j'aime beaucoup, beaucoup Diablo. J'ai pas pris le temps de jouer au remake du 2. Celui-ci, le 4, donne vraiment vraiment envie. Je rebondirai juste en fait, oui, effectivement, sur ce que tu disais, où quand on regarde en fait ce dernier journal de dev, ouais, c'est surtout moi sur les muscles. Ouais. Les muscles, le squelette, ça m'a assez surpris parce que on parle quand même d'un hack and slash. Donc, alors oui, ça participe bien sûr. Hein, chaque petit détail participe à la qualité du jeu. Mais là effectivement, en voyant principalement cette partie-là, cette vidéo-là, je me dis waouh. Enfin, les mecs, ils ont atteint un niveau de finition qui est quand même assez dingue, quoi. C'est assez surprenant. Mais effectivement, bien évidemment, ça ne remet pas du tout en cause, effectivement, tout ce dont tu as parlé, Patrick, ouais, juste avant. C'est un peu le problème d'être entre le marteau et l'enclume, effectivement, surtout ouais. quand t'aimes bien un jeu ou une série comme ça, quoi.
Exactement, ouais. Et du coup, tu te sens coupable parce que tu dis oui, les autres jeux, je disais, ah, je vais pas en parler, mais c'est des jeux auxquels tu veux pas jouer de toute façon. Celui-là, il te fait envie, et du coup, tu te dis, bah ouais, forcément, c'est plus la même chose quand le jeu, il te fait envie. C'est facile de pas en parler quand tu. Mais bon, bref. Mais oui, ce niveau de finition, de peaufinage, on se demande presque si c'est nécessaire. Peut-être que, je serais curieux de le savoir. Peut-être que pour la manière dont ils font les morts des ennemis, ils devaient concevoir toute la structure, le squelette, enfin la structure squelettique, musculaire, etc., pour que ça fonctionne bien par ailleurs. Mais bon, bref, ça sera intéressant de voir quand ils sortent. Ouais.
Juste pour terminer là-dessus, effectivement, c'est en t'écoutant, je me disais finalement, c'est toujours un petit peu la même chose. Tu vois, en fait, ce niveau de détail, on le retrouve aussi chez les prods Naughty Dog, chez Rockstar, bien évidemment. Et Naughty Dog, on sait aussi qu'il y a eu des problèmes, alors pas au niveau, enfin, a priori, d'Activision, mais de Blizzard Activision, mais effectivement, chez Naughty Dog aussi, il y a eu des grosses histoires de crunch,
ouais, bien sûr.
Et Rockstar, il me semble également, j'ai un petit doute, mais il me semble.
Ah oui, bien sûr.
Si, c'est Rockstar, le cas aussi. Oui, si. Mais voilà. Donc, tu vois, il y a toujours ce côté. Oui, effectivement, le produit final étonne par sa qualité, son niveau de détail qui est assez hallucinant, surtout le nombre de jeux en fait, chez Naughty Dog, où je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait, le nombre de petites choses qu'ils ont faites qui va passer inaperçu. Pour la plupart des joueurs, parce que c'est du détail, quoi. C'est vraiment du détail. Mais effectivement, ça participe à l'immersion. Mais après, derrière, on se dit, ouais, mais enfin, voilà, ce niveau de détail, il doit aussi avoir un prix. Et le prix, bah, c'est généralement, en fait, les on va dire, les développeurs, tu vois, qui en sont les premiers affectés, je pense, quoi. Bien tu sûr. Vois, ne serait-ce qu'à travers les heures, notamment, et puis, bah, tout ce qui tourne autour, quoi. Donc, c'est toujours compliqué, effectivement, de se situer par rapport à ça, entre quelque chose que tu adores, t'as envie d'en parler, et puis, bah, de l'autre, comme tu le dis si bien, bah ouais, mais tu fais de la pub aussi, en fait, pour une société, pour des personnes qui, maltraite leurs employés, tout simplement. Ouais.
J'ose espérer qu'aujourd'hui... Ça, pardon, vas-y, Tri.
Ah, pardon. Oui, puis j'allais dire, et c'est d'autant plus compliqué parce que au-delà de la société qui maltraite ses employés, il y a aussi les employés qui, eux, sont maltraités et qui donnent du taf et ouais. qui font un taf assez conséquent sur les jeux et qui, eux aussi, ont envie d'être rétribués à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Et je pense que ça peut être hyper délicat pour eux aussi de se dire, bah voilà, les gens n'osent pas parler de notre jeu ou n'achètent pas notre jeu à cause de ça. C'est vrai que c'est une situation, c'est un peu les fesses entre deux chaises, hein, comme on dit.
Ouais, c'est compliqué, on va conclure, mais ce que disent souvent les développeurs, enfin ce que j'ai entendu moi en tout cas de manière anecdotique, c'est oui mais on a bossé comme des fous, on n'a pas envie que les gens justement ne parlent pas de notre jeu, quoi. On a sué sang et eau, maintenant il faut que et puis au moins si les jeux se vendent, ça leur permet d'avoir une certaine reconnaissance, enfin. Et puis, à vrai dire, le fait que nous, dans un podcast ou dans un magazine de jeux vidéo, on parle de ces problèmes, il faut être honnête, ça ne va pas changer les ventes, même si ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais... Bon, le truc que je dirais en conclusion, c'est qu'au niveau du crunch et de ce genre de choses, j'espère qu'au moins, en ce moment, chez Blizzard, ils tiennent à carreau, quoi. Au moins ça, qu'il ne faut pas déconner. Chez Naughty Dog ou chez Rockstar, ils font les testicules de cheval qui rétrécissent en hiver parce qu'il fait froid. Tout le monde s'en fout. Mais après, quand on parle de crunch, il y a des changements. J'espère que là, on verra. Mais OK, Kotick est encore en place malgré les horreurs qu'il a fait. Mais j'espère qu'ils ne sont pas en plus en train de cruncher dans les bureaux. J'imagine que non. Je ne peux pas imaginer que ça sera encore le cas. Bref, est-ce que vous aimez les Battle Royale ? Oui, super, Patrick,
non.
On adore.
Mais si, moi j'aime bien, pour de vrai.
Non, mais
moi j'ai joué à PUBG. À
eh bien écoute, beaucoup. Est-ce que tu aimerais jouer à Babel ?
Alors, tout dépend à quoi ressemble Babel. Parce que aimer les Battle Royale, il y en a tellement. Par exemple, je n'aime pas du tout Fortnite, mais j'aime beaucoup PUBG.
Alors,
donc,
écoute,
ça dépend de la tête du Battle Royale.
Tu vas être surprise. Babel Royale, c'est... Babel, ça veut dire babiller en quelque sorte. C'est bredouiller. C'est un Battle Royale où c'est un mélange entre le concept du Battle Royale et le Scrabble. C'est-à-dire qu'on a des lettres qui tombent du ciel avec un parachute, qui arrivent quelque part sur la carte, le board, et il faut à réussir à créer des lettres avec le stock qu'on a et à se rapprocher de l'endroit où le cercle va se réduire sur le board et essayer d'éliminer les ennemis en faisant des mots avec leurs mots à eux et leurs lettres à eux. Enfin, c'est un battle royale de lettres. Le Scrabble,
c'est original,
n'est-ce pas? C'est pour ça que je voulais en parler.
Mais moi je trouve ça. Tu vois, on a eu. Il y a eu PUBG qui a lancé toute une vague et ensuite s'en est suivi par ça s'est suivi par Fortnite et il y a commencé à y avoir énormément de Battle Royale qui sont sortis plus ou moins originaux. Mais tu vois, quand il y a une proposition comme ça, même si je dis pas que je vais forcément y jouer, mais quand il y a une proposition comme ça, bah je me dis c'est cool. Tu vois, ils ont essayé de faire quelque chose quand même en plus. Ils ont surfé un peu sur le truc du Battle Royale, mais ils ont rajouté leur petite touche. Donc honnêtement, j'aime beaucoup le concept.
On est assez d'accord. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est le Scrabble Royale en quelque sorte. S'appelle Babel Royale. C'est pas encore disponible, hein, mais ça sort, je sais pas quand. Si, il est dispo. Il est dispo. Babel Royale, il est dispo. Donc, vous pouvez y jouer sur Mac et PC sur Steam. Final Fantasy VII, si vous l'avez reçu par le PlayStation Plus il y a quelques mois de ça, peut-être même un petit peu plus, eh ben vous pouvez passer à la version PS5 gratuitement sans payer à partir de cette semaine parce que c'était une update qui n'était pas disponible pour la version qui était donnée avec le PlayStation Plus. C'était un peu mesquin quand même comme décision de la part, on ne sait pas si c'est Square ou Sony qui avait pris cette décision, mais maintenant vous pouvez. Il est aussi sorti sur PC. Bon, visiblement, il a pas mal de problèmes sur la version PC, mais il est dispo avec Intergrade. C'est ça qui est dispo d'un coup. Nintendo a prévenu, pendant les vacances, on va avoir des problèmes de serveur, messieurs, dames. Donc, c'est pas la première fois que ça leur arrive, mais surtout le week-end de Noël, donc là, dans quelques jours, ils risquent d'avoir des problèmes pour le store et pour les serveurs en général. Donc, non seulement Nintendo a des problèmes, mais Microsoft n'a pas réussi à trouver assez de Xbox Series X pour faire le tournoi de Halo Infinite qu'ils avaient prévu la semaine dernière. Donc, ils ont été obligés d'utiliser des kits de développement. C'était assez cocasse. Donc, la pénurie continue. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petite news sympathique? Ah oui, passez sur l'Epic Game Store tous les jours pour récupérer votre jeu gratuit. Il en reste encore une semaine, je crois, quelque chose comme ça, une dizaine de jours de jeux gratuits. Et on a la liste des jeux PS Plus de janvier qui a leaké. Elle a leaké et a priori, si c'est juste, ça semble être juste parce que c'est D-Labs qui l'a eu plusieurs fois déjà, qui a vu juste plusieurs fois. Alors, il y a Deep Rock Galactic, moi, je n'ai pas adoré, mais qui est très, très apprécié sur PS4 et PS5. Dirt 5, qui est un jeu de course de rallye, PS4, PS5 aussi, qui plaira aux fans. Et surtout, Persona 5 Strikers, qui est une sorte de Sangoku Musso. C'est Persona 5 Musso, en fait. Qui là, pour le coup, je pense que ça fera plaisir à beaucoup d'auditeurs de l'émission, Persona 5 étant ce qu'il est. Donc, a priori, il arriverait le 4 janvier avec ses camarades de jeu PS Plus. J'ai quelques petits trucs encore à mentionner. On a Sensor Tower, je crois, qui a fait un bilan des jeux mobiles qui ont rapporté le plus d'argent et combien ont rapporté plus d'un milliard de dollars cette année, en 2021. Vous savez que depuis que je joue à Wild Rift, moi je suis un professionnel total des jeux mobiles. Et je continue à jouer à Wild Rift. D'ailleurs, je me maintiens en gold, avec un peu de difficulté parfois, mais parce que j'ai eu des jeux difficiles, des parties difficiles, mais je me maintiens en gold. Donc, vous pouvez nous rejoindre, on a une guilde très sympa, vous pouvez nous rejoindre par le Discord, on passe de bons moments. Mais donc, les jeux mobiles qui ont fait plus d'un milliard, il y en a huit jeux qui ont fait plus d'un milliard de dollars.
Quand même.
Ouais, n'est-ce pas?
Et un milliard, c'est énorme.
N'est-ce pas?
Huit. Ah ouais.
Ouais. Alors, les deux premiers... PUBG Mobile, on en parlait tout à l'heure, Honor of Kings, qui est un MOBA, Genshin Impact, on en a beaucoup parlé, Roblox, on connaît, il y a Pokémon Go, évidemment, Candy Crush Saga, ça ne surprendra personne, mais il y a deux jeux dont j'avais pas vraiment entendu parler. Un petit peu peut-être, l'autre pas du tout, c'est Garena Free Fire et Coinmaster. Alors Coinmaster, je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est un jeu mobile qui a ramené 1,3 milliard de dollars selon Sensor Tower. Très impressionnant ces chiffres, je trouve.
Je ne connais pas du tout non plus. Mais ça montre une fois de plus, moi je ne suis pas du tout du créneau mobile. Parce que je joue déjà tellement toute la journée que je sais pas, vraiment jouer sur mon téléphone, ça serait trop pour moi. Et du coup, à chaque fois, je suis impressionnée par la puissance de frappe des jeux mobiles en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit pas que c'est aussi ça qui a fait grandir la communauté, le pourcentage de gamers, c'est les jeux mobiles, parce qu'il y a des gens qui ne jouent que sur des jeux mobiles. Et je trouve ça dingue de voir que là, ces 8 jeux, à eux tout seuls, ils ont rapporté 8 milliards, quoi.
Non mais plus.
C'est quand même un truc de fou.
Les deux
même
premiers, plus, c'est presque 3 milliards pièces. Tu te rends compte ?
Oh là là là. Ah ouais, non, c'est un truc de fou. C'est quand même... quel jeu dans l'industrie, on va dire, un peu plus classique, qu'on a l'habitude de voir, nous, sur nos consoles, sur PC, peut dire ça, en fait ? C'est
ouais,
dingue.
Ah bah, je suis sûr qu'il y en a, mais en un an, c'est quand même beaucoup. Ouais. Mais
c'est ça.
Moi, je suis étonné par justement PUBG, on en parlait là tout à l'heure. Je crois que c'est Trinity qui disait qu'elle y jouait, qu'elle aimait beaucoup, ouais, le jeu. Et je suis à chaque fois en fait, que j'entends parler de ce jeu-là, je suis très très étonné en fait, par comment il a su rebondir. Parce que en 2017, je crois, quand il est sorti, il était au top. Après, en fait, il s'est fait bouffer par Fortnite. Et puis bah, finalement, il a rebondi, mais de façon assez folle, via la version mobile. Et là, quand on voit ces chiffres-là, tu te dis qu'il a réussi vraiment à rebondir. Et c'est très étonnant. Après, moi, effectivement, tout comme vous, j'ai eu une petite période sur 3-4 ans.
Excuse-moi, juste pour la question de rebondir, PUBG n'est jamais allé nulle part. Hein. Il y a eu Apex, et il y a eu Fortnite, et il y a eu maintenant Warzone, mais PUBG, il coûtait 40 euros. Et chaque jeu vendu, du coup, c'était un jeu vendu, alors que tous les autres sont free-to-play. Et maintenant, il est en train de passer free-to-play seulement maintenant, parce que je pense qu'ils ont épuisé le nombre de personnes auxquelles ils pouvaient le vendre. Et on en parlait beaucoup moins, parce qu'on parle parfois moins des jeux qui sont des jeux services, qui, même s'ils continuent à avoir beaucoup de joueurs. Je n'ai pas en tête les revenus de PUBG, mais comment il s'appelait, Blue, la société mère coréenne. Bref, j'ai pas en tête leurs revenus de la version PC. À mon avis, ils sont pas si faibles que ça. Tu vois, on n'en parle plus, mais je crois qu'ils sont toujours très, très, très joués et très, très, très profitables.
Encore actuellement ?
Ah, je pense, oui, je pense.
D'accord,
bon,
okay.
Le fait qu'ils passent ça en free-to-play, à mon avis, ça va encore relancer le truc. Mais, mais pardon, je t'ai interrompu.
Non, j'allais juste préciser que effectivement, tout comme vous, je joue peu sur mobile. J'ai eu une petite période pendant 3-4 ans où je jouais beaucoup, j'avais beaucoup joué à Dragon Ball Dokkan Battle et Final Fantasy Brave Exvius. Et en fait, ce sont des bons jeux. Hein. Enfin bon, après voilà, on aime ou on n'aime pas. Surtout Brave Exvius, où il y avait beaucoup beaucoup de bonnes choses. Mais effectivement, après voilà, c'est beaucoup 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 de temps. Il m'a quand même fallu 3-4 ans pour me dire, mais dis donc, tu passes par semaine, je sais pas combien d'heures tu passes en fait sur ton téléphone à jouer, alors que tu as d'autres jeux que je juge peut-être plus intéressants, tu vois, que j'ai envie de faire et que je ne fais pas parce que je passe du temps en fait sur mon téléphone, quoi. À ce moment-là, en fait, il y a un coup près qui est tombé. Je me suis dit, bon, j'arrête les free-to-play pendant un moment. Non pas que j'aime plus ça, mais ça me prend trop de temps. J'ai trop de choses à faire à côté, à voir, etc., etc. Et par la force des choses, voilà. Donc, je n'ai plus rejoué sur mobile depuis un long moment déjà.
Moi, je crois qu'il y a. Alors, il y a deux éléments. D'une part, il ne faut pas oublier que le mobile, c'est la plateforme de jeu principale pour toute une partie du monde qui n'a ni console ni PC. Particulièrement en Asie, où ils sont juste à situation charnière où ils peuvent avoir des mobiles performants, mais pas forcément des machines de jeu avec la télé, avec tout ça. Donc, c'est peut-être surprenant ces jeux-là parce que on les connaît pas, et je pense en particulier à Coin Master. J'imagine que c'est peut-être là-bas que c'est populaire, mais oui. Donc ça, c'est un truc à noter. Et je crois que il est pas impossible qu'on soit en train d'arriver à une période où il y a des jeux qui plaisent aux joueurs traditionnels. C'est comme ça que je les appelle généralement, les joueurs PC et console, mais qui sont sur mobile, et que la formule est en train d'être affinée suffisamment pour que, justement, ça se mette à fonctionner. J'en ai parlé à une ou deux reprises, mais parce que quand tu parles de Dokkan Battle, et même, je crois, Brave Exvius, malgré tout l'amour que je porte à Dokkan Battle et à toi et Mimic, qui est très, très grand fan aussi, j'imagine que vous en parliez beaucoup à l'époque, c'est des jeux qui sont quand même d'une catégorie assez différente de ce qu'on connaît sur PC ou console. Il y a beaucoup de machins avec trois étoiles, là, j'ai réussi à le choper, je fusionne les trucs et j'ai de l'énergie et j'ai machin. Bon, c'est une mécanique différente qui je pense, peut épuiser assez vite. Alors que, évidemment, je parle de Wild Rift, maintenant c'est presque devenu une blague parce que j'en parle à tous les épisodes depuis un mois, mais c'est vraiment un plaisir de jeu. Alors après, on accroche au contrôle ou pas, mais on arrive à quelque chose d'assez fin pour que ça fonctionne pour une bonne partie des joueurs. Et c'est un plaisir de jeu qui est comparable à celui qu'on peut avoir sur PC ou console. Et la première indication de ça que j'ai eue, c'était Diablo Immortal, que j'ai bêta-testé l'année dernière, pendant la période des fêtes, et qui était vraiment... C'est la première fois où je me suis dit, ah ouais, ok, là, il y a un truc. Peut-être que les autres jeux mobiles vraiment bien peaufinés sont aussi bons. C'est possible, et que je ne les connais pas parce que je ne les ai pas testés, parce qu'ils ne sont pas aussi populaires ici ou ils ne sont pas aussi connus. J'ai l'impression, d'après ce que j'entends, que même les Honor of Kings, tous les MOBA, ils ne sont pas aussi peaufinés que Wild Rift. Donc, je me demande si le fait que des studios traditionnellement PC ou console qui se mettent aux jeux mobiles les approchent différemment, les font différemment. Mais on a un plaisir de jeu, même dans des jeux qui sont mécaniquement demandeurs, qui sont exigeants. Eh ben, on réussit à obtenir quelque chose de comparable. Donc, je crois que d'ici 2 ou 3 ans, peut-être que les jeux mobiles, certains jeux mobiles, seront plus dans les conversations des joueurs PC et console. Mais à voir, on verra. Quoi d'autre ? Allez, on termine avec le témoignage d'un développeur, enfin d'un éditeur, c'est Finji, je crois, qui édite notamment Chicory ou Tunic, qui arrive bientôt, qui a témoigné à, c'était IGN, je crois, et oui, c'est ça, c'est IGN, et qui a dit plusieurs choses sur son métier. Et c'est en fait un couple, un homme et une femme, je ne sais pas s'ils sont en couple, qui sont ses éditeurs. Et ils parlaient du développement, parce qu'ils sont aussi développeurs sur le côté. Il y avait quelques éléments assez intéressants qu'ils ont notés. Ils parlaient des budgets. Ils disaient que c'est devenu ridicule, les budgets pour les jeux indés. Il y a à peine 5 ans, je pouvais faire un jeu pour $1 million. Et aujourd'hui, à moins de 4 ou 5 millions, c'est juste pas possible. Et déjà, ça, c'est intéressant en soi. Donc, un jeu, même un petit jeu indé, ça coûte 4 ou 5 millions de dollars à faire aujourd'hui. Mais en plus de ça, le problème qui se pose, c'est que les jeux indés, les petits jeux indés, même s'ils coûtent cher, eh bien, ils ont un prix limite qu'ils peuvent demander sur Steam ou sur les plateformes, quoi. On peut faire payer 10 ou 20 dollars pour un petit jeu indé, mais plus, ce n'est pas possible. Et comme en plus, les plateformes prennent 30%, c'est compliqué de rentrer dans ces frais. Et on comprend, si le prix... Alors, c'est un témoignage d'une personne, mais si le coût de développement d'un jeu indé est passé de 1 à 5 milliards à la louche en quelques années, le fait de ne pas pouvoir demander plus d'argent parce que les jeux indés, ça ne coûte pas plus de 20 dollars ou de 20 euros, c'est assez préoccupant pour eux. Et je crois que ça explique peut-être un petit peu aussi pourquoi la visibilité est tellement importante, pourquoi on a tellement les wishlists now, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et il mentionne aussi le fait qu'un jeu indé qui se vend à plus de 100 000 exemplaires, c'est très, 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 très rare. Alors, vu, encore une fois, qu'il y en a des milliers, littéralement des milliers qui sortent chaque année, c'est sûr que ça va être très rare. Mais plus de 100 000, c'est... Moi, j'aurais... Enfin, j'ai aucune idée de ce que ça donne, mais 100 000, je comprends... Je me dirais, bah oui, si tu sors ton jeu et que tu n'en vends pas au moins 100 000, l'étape d'en dessous, c'est quoi ? Tu en vends 10, 20 000 ? C'est compliqué de rentrer dans ces frais avec 10, 20 000. Et même 100 000, si tu le vends à 20 dollars, on va dire, bah ça fait 2 millions de dollars rentrés, moins les 30%, moins tous les frais, etc. Quand le budget est de, allez, on va dire 4 ou 5 milliards, pardon, c'est 4 ou 5 millions, bah, t'as même pas fait la moitié, quoi. Donc, ouais, c'était très intéressant. Bon, après, évidemment, il y a des indés qui s'en sortent. Il y en a qui s'en sortent pas, on le comprend. Ça a sans doute toujours été comme ça. Mais c'était un éclairage que j'ai trouvé assez intéressant. Et puis, Tencent a acheté Turtle Rock Studio, le développeur de Back 4 Blood. Et Embracer, vous savez, le groupe anciennement THQ Nordic, a acheté Dark Horse Comics. Alors, Dark Horse, c'est des comics. C'est marrant qu'un développeur très gourmand de jeux vidéo se mette à acheter un éditeur de comics. Alors, évidemment, ce n'est pas Marvel ou DC. Ce n'est même pas Image qui est peut-être le troisième éditeur de comics. Mais je ne suis même pas sûr parce que Dark Horse, ils font plein de trucs sous licence. C'est du genre, je ne sais pas s'ils ont ça spécifiquement, mais c'est du genre Star Wars ou toutes les licences de plein de trucs qu'on connu en pop culture, qu'ils font. Ils sont aussi leur propre truc, comme ceux qui font Hellboy. Il y en a quelques-uns comme ça qu'on connaît.
Il me semble que Dark Horse est bien le troisième éditeur de comics aux US.
Ouais, parce que moi, je pense toujours à Image parce que il y a The Walking Dead, Invincible, tout ça. Mais il y a moins... peut-être de choses qui sortent de chez Image que de Dark Horse, c'est vrai. Donc voilà, je suis très curieux de voir ce que Embracer va faire avec Dark Horse. Ça, c'est très intéressant. Et puis, deux updates. Ubisoft a visiblement une vague de départ qui est absolument incroyable suite aux différents problèmes dont on a parlé. Les développeurs partent, en fait. Alors, Ubisoft dit non, on a toujours des développeurs qui partent à un rythme normal, régulier, comme dans l'industrie. Mais les témoignages en interne, qui sont peut-être un petit peu anecdotiques, mais qui sont nombreux, visiblement, sont que il y a plein de développeurs hyper importants dans différents projets qui partent de la boîte pour plein de raisons, mais notamment parce qu'ils ne sont pas bien payés. Parce qu'ils sont, et d'ailleurs, on avait entendu il y a quelques semaines le fait que Ubisoft réajustait, je crois que c'était au Canada, les salaires des développeurs. Mais l'une des raisons, c'est qu'ils ne sont pas bien payés, en plus des problèmes de harcèlement, etc., dont on a déjà entendu parler. Mais j'avais trouvé ça assez intéressant, en particulier au Canada, c'est de là que viennent les interviews de Axios. En particulier au Canada, ils ont de gros problèmes et ça peut impacter le développement. Ça devient un tel problème que ça impacte le développement de leur jeu. Et puis, vous serez heureux d'apprendre que... il n'y aura pas de NFT dans Stalker 2. Après l'avoir annoncé, ça a fait un tel... scandale dans la communauté des développeurs qu'ils ont décidé qu'il n'y aurait pas de NFT finalement. Donc, ouf, tout va bien, pas de NFT dans Stalker 2. Vous serez tous contents.
Que j'attends énormément Stalker 2 en plus.
Écoute, tu pourras pas acheter le casque signé par le développeur unique que tu pourras ensuite revendre à un autre joueur. J'imagine que tu es...
Quel dommage, je suis tellement déçue. Tu sais, moi, je fais partie de ces gens qui n'achètent rien dans les jeux. Vraiment, je n'ai jamais, très, très rarement acheté des skins ou quoi que ce soit. Donc là, ça va le faire.
Pareil. Moi, soit je le gagne en jeu, soit je ne l'ai pas. C'est très, très, très rare. Ça peut arriver. Mais...
Ouais.
Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de ce petit épisode. Actu légère, mais plutôt intéressante. Merci pour votre présence et vos analyses. Avant de se quitter, j'aimerais évidemment que vous me rappeliez où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons par Logan. Tiens, Yannick, est-ce que en dehors de tout... Enfin, il y a Twitter, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres choses ?
Il y a Twitter principalement. Après, j'ai créé un petit blog... C'est vraiment pour moi, hein. C'est où j'écris, où je fais certaines critiques de jeux, encore quand j'ai un petit peu de temps, et de ciné aussi, surtout. YannSolo.fr, voilà, ça ne s'invente pas. et c'est à peu près tout.
Super, bah, merci beaucoup d'avoir été là. Trinity, je t'en prie. Où te retrouve-t-on ?
Eh bien, comme d'habitude, on me retrouve sur Twitch à Trinity, tout simplement.
Magnifique, merci à tous les deux. Et peut-être qu'on se retrouvera dans quelques jours, une ou deux semaines, pour parler de 2022, hein, au hasard. Peut-être qu'on enregistrera même l'épisode juste maintenant, après avoir clôturé celui-ci, potentiellement avec la magie du podcast. On voyagera dans le temps, peut-être. Mais en tout cas, pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. NotePatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais. Et évidemment, patreon.com/rdvjeux si vous voulez soutenir l'émission. Bon, en ce moment, vous avez peut-être d'autres choses à faire, mais si l'esprit de Noël vous étreint, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeux. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour cet épisode un petit peu spécial bonus sponso et une semaine pour notre épisode Super Gotti. On vous fait de grosses bises. Ciao, ciao.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.